podcast en hommage à Molière. Écoutez, réécoutez les tirades du répertoire de Molière, choisies et lues par les élèves qui ont participé à cette proposition de la bibliothèque. Musique de Jean-Baptiste Lully, le divertissement royal de Versailles, LWV 38. Le montage a été réalisé avec l'aide d'Augustin Grazzini et Amaury Bonin.
Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont gens de difficulté, et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter, qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire, et trouver des moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours ? Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferions rien, et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Extrait du Malade imaginaire, acte 1, scène 7.
Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elle trop profonde, et sait en beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde, les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir. Et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir, on y sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point affaire. Et, dans ce vain savoir, qu'on va chercher si loin, on ne sait comment va mon pot, dont j'ai besoin. Les femmes savantes, acte 2, scène 7.
Tartuffe, acte 3, scène 6. Orgon, ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable ? Tartuffe, oui mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures, et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez vos courroux, et, comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage.
Je ne trouve partout que lâche flatterie. Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Molière, Le Misanthrope, acte 1, scène 1.
Agnès, pourquoi me criez-vous ? Arnolphe, j'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais, las, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas ? Le deviez-vous aimer, impertinente ? Hélas ! Est-ce que j'en puis, mais... Lui en seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque ce fut la chose. L'école des femmes, Molière, acte 5, scène 4.
J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès, un jeune homme bien fait, qui rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui, tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenu, ne voulant point céder et recevoir l'ennui, qu'il me pût estimer moins civil que lui. Molière, L'école des femmes, acte 2, scène 5.
Acte 2, scène 1. Alceste, Célimène. Alceste. Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons indubitablement. Et je vous promettrai mille fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. Célimène. C'est pour me quereller donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Alceste. Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants, qu'on voit vous obséder. Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Célimène. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque, pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur, à leurs vœux, moins facile et moins tendre. Je sais que vos appas vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève les cœurs l'ouvrage de vos charmes.
Le misanthrope, acte 4, scène 3. Alceste. Ciel, rien de plus cruel peut-il t'être inventé? Et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi? D'un juste courroux je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens plaindre, et c'est moi qu'on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout, on me laisse tout croire, on fait gloire de tout. Et cependant mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache. Et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris contre l'ingrat objet dont il est trop épris. Ah, que vous savez bien ici, contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême, et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable, et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce biais innocent, à vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle, et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel.
Le malade imaginaire, Molière, acte 2, scène 5, le rejet d'Argan. Il s'est rendu redoutable et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique.
Malade imaginaire, acte 3, scène 5. Argan. C'est mon frère qui a fait tout le mal, monsieur Purgon. Méprisez mon clistère, Argan. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Monsieur Purgon, je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Toinette, il ne le mérite pas. Monsieur Purgon, j'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Argan, ah, mon frère. Monsieur Purgon, et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Toinette, il est indigne de vos soins. Monsieur Purgon, mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains. Argan, ce n'est pas ma faute. Monsieur Purgon, puisque vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin. Toinette, cela crie vengeance. Monsieur Purgon, puisque vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais. Argan, eh, point du tout. Monsieur Purgon, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Toinette, c'est fort bien fait. Argan, mon Dieu!
Molière, acte 3, scène 6, Tartuffe. Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et, pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur ? Non, non, vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde m'en prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien.
J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût revenue, toujours comme cela je me serais tenu, ne voulant point céder et recevoir l'ennui, qu'il me pût estimer moins civil que lui.
Amphitryon, la fantaisie mythologique. Mercure. Tout beau, charmante nuit, daignez vous arrêter. Il est certain secours que de vous on désire, et j'ai deux mots à vous dire de la part de Jupiter. La nuit. Ah, c'est vous, seigneur Mercure, qui vous eût deviné là, dans cette posture. Mercure. Ma foi me trouvant lasse pour ne pouvoir fournir aux différents emplois où Jupiter m'engage, je me suis doucement assis sur ce nuage pour vous attendre venir. La nuit. Vous vous moquez, Mercure, et vous n'y songez pas. C'est-il bien à des dieux que dire qu'ils sont lasses ? Mercure. Les dieux sont-ils de fer ? Non, mais il faut sans cesse garder le décorum de la divinité. Il est de certains mots dont l'usage rabaisse cette sublime qualité et que, pour leur indignité, il est bon qu'aux hommes on laisse.
L'Avare, acte 4, scène 7. Harpagon. Il crie au voleur dès le jardin et vient son chapeau. Au voleur ! Au voleur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Juste ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent ! Qui peut-être ? Qui est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Où courir ? Ou ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête ! Rends-moi mon argent ! Coquin ! Il se prend lui-même le bras. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé, et je l'ignore où je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je meurs, je suis mort, et je suis enterré.
L'école des femmes, Molière, acte 1, scène 1, Chrysalde, Arnolphe. Est-il au monde une autre ville aussi, où l'on ait des maris si patients qu'ici ? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces, qui sont accommodées chez eux de toutes pièces ? L'un amasse du bien, dont sa femme fait part, à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux, mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme. Et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu, parce qu'elle lui dit, c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit, qui ne lui sert de guère. L'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. En voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une, de son galant, en adroite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât, et le plaint, se galant des soins, qu'il n'en perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense, et le mari, benêt, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rendait grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire, et comme spectateur, ne puis-je pas en rire.